Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, Rôle Modèle, saison 2.
Vous écoutez Chute Radio.
Chute Radio.
Qui est votre rôle modèle ?
Cette question, nous la posons à chaque entretien de Chute Magazine. Les premiers rôles modèles, ce sont celles et ceux de notre quotidien, nos mères, nos pères, nos proches. Ce sont aussi ceux et celles qui sont nos voisins, nos voisines, qui nous ressemblent, un peu de près ou de loin, qui nous donnent le sentiment que c'est possible, que la porte peut être ouverte.
C'est Chute.
Les rôles modèles, ce sont aussi ceux et celles qui sont allés encore plus loin, parfois dans les étoiles ou pas bien loin, et qui nous inspirent et qui nous donnent le sentiment que rien n'est impossible. Nous avons souhaité les entendre tous et toutes, entendre ces voix multiples qui nous aident à monter les marches, jour après jour. Pour cette nouvelle saison, Rôle Modèle revient avec le soutien d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances de 2020 à 2022. Femme politique, femme de la tech, femme d'engagement, elle fait entendre avec nous ses voix, femmes comme hommes, qui œuvrent jour après jour pour donner un vrai sens au terme « égalité des chances ». Il y a des colères qui s'enseignent, qui vous guident et vous poussent à ne pas rester sur le bas-côté à attendre que la caravane passe. Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum ou encore du Forum Women in Africa, s'est laissée guider par cette colère de justice en créant Systémique pour plus de femmes dans les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Face aux chiffres qui laissent entrevoir une précarisation annoncée des femmes dans un monde où tous les métiers de demain seront liés de près ou de loin aux sciences et technologies, Aude de Thuin souhaite participer à changer la donne. Elle répond aux questions d'Elisabeth Moreno au micro de Chute Magazine, le magazine de la culture numérique.
Madame Aude de Thuin, Aude, c'est une vraie joie pour moi d'être assise ici en face de toi et d'avoir une conversation que je rêve d'avoir depuis que je t'ai rencontrée. Depuis que j'ai rencontré cette grande dame que tu es, on se connaît, je crois, depuis une dizaine d'années. La première fois que je t'ai rencontrée, c'était en Afrique. Et tu me parlais de Women in Africa, alors qu'on aurait pu avoir 150 opportunités. C'est Chute qui nous donne cette chance au travers de ce podcast. Et tiens-toi prête, parce que j'ai à peu près un millier de questions à te poser. Tu as fait énormément de choses. On va parler de ce que tu as fait par le passé, de ce que tu as fait pour permettre aux femmes de réussir, de s'émanciper, de s'accomplir, de se réaliser. On va parler de toi en tant que femme engagée. On va parler de toi en tant que femme en colère. On va parler de toi en tant que femme inspirante. Bref, on va parler de toi en tant que femme rôle modèle. Et commençons par ce qui se passe aujourd'hui. Tu as toujours été extrêmement impliquée sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu as d'ailleurs une ribambelle de citations dont tu nous abreuves régulièrement. Mais c'est de Systémique que j'ai envie qu'on parle là tout de suite maintenant. Parce que tu as eu cette idée, tu fais partie de ces femmes qui ont un nombre d'idées incalculables à la minute. Et tu as décidé de créer Systémique pour qu'on ait davantage de jeunes femmes qui s'intéressent au monde des sciences et des technologies. C'est un point commun que nous partageons. Il y a à peine 30% de femmes dans la tech aujourd'hui, alors qu'elles étaient là, au début de l'histoire, qu'elles ont contribué à rendre l'informatique cet outil extraordinaire qu'il est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Raconte-moi cette aventure Systémique.
Eh bien, Systémique est née, comme toujours, souvent chez moi, d'une colère. Pour les mêmes raisons, tu te souviens que j'ai créé le Women's Forum parce que je n'avais pas pu aller à Davos. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait 4% de femmes, là, ça m'a mise en colère. Et là, j'en ai une très grosse, encore cette fois-ci, qui est née de la lecture un matin des Échos, comme je fais tous les jours, Et je vois une belle photo de 7 jeunes hommes, très très bien, tous mêmes études, même tailleur, même coiffeur, je pense, qui avaient levé 7 millions d'euros pour une boîte d'intelligence artificielle sur le cancer du sein. Je me suis dit, cancer du sein, les femmes, ça, c'est incroyable, quoi, qu'il n'y en ait pas. Et je décide, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, je poste quand je suis en colère, d'ailleurs, ou quand j'ai une jolie histoire à raconter. Et enfin, ce n'est pas une chose usuelle pour moi. Et je poste la photo de ces 7 garçons et je mets au-dessus de la photo « chercher l'erreur ». Et le lendemain, je reçois un message d'un des 7 qui dit « Ah, vous avez raison, on avait une femme, on a oublié de la mettre sur la photo ». Je me dis « Oula, il ne s'arrange pas, lui ». C'est quand même incroyable, quoi. C'est de l'inconscience. Et j'ai eu 190 000 vues sur ce post. Alors, je suis devenue une star pour mes petits-enfants uniquement. Ça s'est arrêté.
Non, tu exagères, pas uniquement.
En tout cas, ça les a marqués. Et je me suis mise à étudier ce sujet des femmes dans l'intelligence artificielle, puisque je savais que le confinement avait provoqué deux choses. D'un côté, un recul qui s'est révélé incroyable des femmes, de leurs envies de grandir dans le monde du travail, d'aller plus loin, tellement elles avaient subi le confinement, puisque ce que moi j'ai fait comme étude, que j'ai appelé le phénomène de la salle à manger, fait que 80% des hommes travaillaient sur la table de la salle à manger dans les appartements où il n'y a pas toujours de bureau, bien sûr, ce qui voulait dire que les femmes étaient dans la cuisine ou dans la chambre. Donc, d'un côté, un recul incroyable des femmes. Et de l'autre côté, en 2 ans, une accélération incroyable des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, parce que ce confinement avait obligé à cela. C'est dans la logique même des choses. Et donc, ça voulait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'intelligence artificielle. Conclusion, c'est un monde. Le risque, c'est que le monde se réécrive au masculin. Et là, la colère est montée. Donc, je voyais mon mari et ma fille qui disaient « Oh là là, elle ne va quand même pas créer une société encore, puisque j'ai toujours Women in Africa qui marche bien et qui se développe sur le continent. » Et j'ai vraiment, la colère me dominait, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à rester sur cette situation, sur ce constat que je faisais, que le monde se réécrivait au masculin.
Mais la colère est saine quand elle permet de passer à l'action pour réduire les injustices et les inégalités.
Oui, je crois. Je crois qu'elle est saine. Dans mon cas, elle l'a souvent été. C'est une colère productive, finalement. Et je crois que ces colères sont nécessaires, justement, parce qu'elles expriment des choses et que c'est bien d'exprimer les choses, tout simplement. Et moi, je le fais comme je sais le faire, c'est-à-dire en créant quelque chose. Et pour les femmes en particulier, voilà comment est née Systémique.
L'aventure entrepreneuriale, tu la connais bien.
Ah oui, j'ai commencé à 22 ans.
Tu as commencé à entreprendre à 22 ans. Avec cette expérience que tu as de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, qui fait rêver beaucoup de femmes, quelles sont les 3 leçons majeures que tu as apprises de l'entrepreneuriat, que tu as apprises de l'entrepreneuriat?
La première, c'est que nous, les femmes, souvent, on a peur. On a peur d'y aller, on a peur de se lancer. Alors moi, j'ai connu les époques où les femmes avaient plus peur que maintenant. Et j'ai vu la progression. J'ai vu les femmes grandir dans leurs projets lorsqu'elles allaient le présenter aux banques et tout ça. Mais je constate une deuxième chose, c'est que quand une femme lance un projet... à projet égal, elle est beaucoup moins ambitieuse que les hommes, pour un projet identique. Et ça, c'est une chose qui ne cesse de... Enfin, qui m'interroge toujours, parce que ça signifie beaucoup de choses de l'état, de la situation psychologique des femmes, toujours. Et il n'y a pas beaucoup d'évolution sur ce plan-là. La troisième chose, c'est que les femmes vont trop souvent dans des secteurs où on les attend, et qu'elles n'osent pas aller plus loin. Elles n'osent pas créer des entreprises, particulièrement justement dans ces métiers d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que 8 métiers sur 10 ont changé dans les 5 ans qui viennent, 5-10 ans qui viennent. On y est, on est dans la transformation et la mutation du monde. Et les femmes n'y vont pas. Elles continuent à ne pas y aller assez nombreuses. D'où cette réécriture du monde masculin. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc, toutes les initiatives, c'est pour ça que j'étais heureuse de parler de ça aussi ce matin avec toi, Elisabeth, parce que tu connais le sujet, tu as été confrontée à ça souvent dans ta vie, le sujet de savoir attirer des femmes et donc de parler aux entreprises, aux grandes entreprises, parce qu'il y a le sujet de la création d'entreprises, bien sûr, mais il y a aussi le sujet des femmes à l'intérieur des grandes entreprises. Et autant s'est battu pour la parité, pour les quotas. Moi, au départ, j'étais contre les quotas parce que j'étais pour la compétence. Mais je me souviens d'une étude que j'avais menée lorsque je présidais le Women's Forum. On aurait mis plus de 500 années à y arriver. C'était juste dingue. Bon, cela étant, ce qu'il y a de consolant, c'est qu'en Italie, c'était plus de 900. Mais pour autant, il fallait qu'il y ait des quotas. Parce qu'à un moment, il faut savoir forcer les choses. Et on voit bien le résultat que ça a donné. Et puis, il y a la loi Rixin après. Donc, c'est là où il vaut toujours mieux éviter de légiférer et de le faire de façon naturelle. Mais si, à un moment, on est obligé de le faire, il faut y aller. Parce qu'il faut forcer les femmes à se dépasser. Elles en ont le talent. On a le même cerveau. C'est ce qu'il faut dire aux filles. On a le même cerveau que les mecs. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas?
Pourquoi n'y allez-vous pas, jeune fille? Vous avez du talent, vous avez du savoir-faire, de la compétence et de l'ambition. Faites-vous confiance et osez.
Oui.
Osez vous faire confiance. Mais parfois, on se fait confiance. Parfois, on a envie. Mais le système est plus fort que nous.
C'est vrai.
Est-ce que tu as des hommes qui t'ont aidé à réussir dans ta vie? Le premier, c'est ton homme à toi.
Oui.
Ton mari a toujours été à tes côtés dans toutes tes aventures, et pour le meilleur et pour le pire.
Et j'ai même une anecdote là-dessus maintenant, qui vient de m'arriver. Parce que Systémique me prend un temps fou. Évidemment, j'ai une toute petite équipe. On vit entre Paris et le Maroc. Et il y a 15 jours à peu près, on se téléphone 3 fois par jour au minimum. Et il me dit, tu as quelque chose à dîner ce soir? Je lui dis, non, j'ai pas le temps, je vais me débrouiller. Et je reçois un appel d'une boîte à 5 heures qui me dit, on a une livraison pour vous, votre mari a passé une commande du Maroc à Paris, première chose. Donc j'avais de quoi dîner, et puis je fais réchauffer ce qu'il fallait, et je pars dans mon bureau travailler, et tout d'un coup, les alarmes de l'appartement se déclenchent, j'avais tout oublié sur la plaque, et donc... J'ai failli pas mettre le feu, mais enfin, ça a déclenché quand même. Donc, tous les voisins alertés et tout ça. Et le pire, c'est que je ne savais pas éteindre l'alarme non plus. Donc, j'ai rappelé mon mari au Maroc. Enfin, c'est des situations. Et donc, il m'a dit, OK, je reviens à Paris et je vais t'aider. Voilà, ça montre effectivement son soutien indéfectible depuis toujours. Je lui fais peur aussi, parfois, avec mes idées.
Tes prises de risque.
Oui, oui, bien sûr. Et il en a pris aussi à mes côtés. Donc...
On fait partie toutes les deux des femmes qui pensons que ces questions d'égalité ne se résoudront pas qu'avec la moitié de la planète et que nous devons y travailler ensemble pour y parvenir. Et moi, je me réjouis de voir... Moi, j'ai travaillé dans des environnements très masculins, que ce soit le bâtiment ou la tech, et même la politique. Et j'ai souvent eu des hommes qui m'ont accompagnée dans ce parcours. Et je veux saluer le témoignage de Jérémy Batillot, qui est l'un des parrains du programme que nous créons avec le 8 mars, la puissance du lien. Parce que, encore une fois, c'est ensemble que nous réussirons ces combats extrêmement importants.
J'ai accepté d'être parrain de l'événement 8 mars, la puissance du lien, parce que je suis convaincu par le message que porte Elisabeth Moreno. Je suis convaincu qu'ensemble, on peut recréer du lien humain entre les individus et raviver des élans de solidarité, notamment professionnels. Je travaille chez LinkedIn et nous sommes bien placés pour savoir que le réseau professionnel est un atout dans une carrière, qu'il donne accès à des nouvelles opportunités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 4 fois plus de chances d'être embauché dans une entreprise quand on connaît déjà quelqu'un dans cette entreprise. Alors je suis venu à l'événement en tant que parrain pour accompagner une filleule et lui apporter des conseils, des contacts professionnels qui pourraient l'aider à faire avancer son projet d'entreprise ou sa recherche d'emploi. J'ai déjà été parrain, j'ai déjà coaché avec d'autres associations et je le fais aussi parce que je sais qu'en retour, cette filleule m'apportera son expérience, sa vision des choses, ses idées. J'espère qu'un jour c'est elle qui me donnera ses conseils. Alors, ça me prendra du temps mais je m'organiserai parce que j'en fais une priorité. J'ai aussi mobilisé 40 de mes collègues pour venir avec moi, parrainer, marrainer, également des filles. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Cette fois-ci, le mien, c'était de participer et de faire participer. Chez LinkedIn, je suis aussi responsable bénévole d'un projet qui s'appelle l'Alliance Un Réseau pour Tous, qui vise à lutter contre les inégalités de réseaux professionnels. Je travaille avec une équipe de 10 volontaires motivés, avec qui on rassemble les forces d'associations, d'écoles et d'entreprises pour aller plus vite. Depuis 2 ans, l'Alliance a aidé plus de 5500 bénéficiaires, femmes et hommes, jeunes et seniors, en leur donnant des conseils, en leur expliquant les codes professionnels et tout ce qui ne leur a pas été apporté par leur origine sociale, leur formation et le lieu où ils ont grandi. Le secteur de la tech est largement sous-représenté par les femmes et les choses avancent trop lentement. Je vous donne un exemple, dans un domaine dont on parle beaucoup en ce moment avec l'arrivée de ChatGPT. En France, il y a 5 ans, les femmes ne représentaient que 25% des actifs travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle. En 2022, la part des femmes n'a évolué que de 3 points, pour passer à 28%. Alors c'est pour ça que je suis ouvert à toutes les initiatives et tous les projets qui permettront de faire changer les choses. Parce que je sais qu'on peut construire une société équitable et mixte qui nous ressemble davantage. J'invite tout le monde à trouver le temps de participer.
Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien. Envie d'entendre la suite ? D'entendre Elisabeth Moreno et Aude de Thuin parler estime de soi, confiance, aide et soutien psychologique ? Alors restez à l'écoute. Le frisson sonore continue en partie 2.
Vous écoutez Chute Radio. Chute.